Le millefeuille revisité. Bonjour et bienvenue sur l'autre radio en compagnie de Christine. Voici donc venu notre huitième rendez-vous, rendez-vous avec un livre qui m'est cher par son sujet, mais aussi par l'écriture singulière et la sensibilité que l'autrice a mis au cœur de ce roman. Ce texte, j'ai eu de nombreuses fois à cœur de le lire à voix haute, tant la langue fait corps avec l'histoire qui nous est contée, si tant est que ce soit un conte, mais j'y reviendrai à cette langue. Le livre, c'est « La robe bleue » de Michel Desbordes, où elle retrace la vie de Camille Claudel à travers ses longues années d'enfermement à l'asile de Mondevergue.
Vous écrivez le dimanche ?
Non, pensez donc, j'écris tous les jours, chez moi, en rentrant.
Jusque tard dans la nuit ?
Non, parce que je me lève à 5h30, alors si j'écrivais tard dans la nuit, je ne sais pas si je tiendrais le coup. Je travaille de 6h à 9h.
3 heures par jour.
3 heures par jour. Et puis le matin, je relis ce que j'ai fait la veille, à tête reposée. Le soir, c'est plutôt l'écriture de l'inspiration. Puis le matin, l'écriture de la critique. Je vois tous les défauts. Enfin, je travaille pas en faisant une page, par exemple. Je ne l'ajoute pas une page à une page. Je travaille d'une façon que je trouve un peu étrange. C'est-à-dire que ça me fait penser au mythe de Didon. Vous savez, Didon, cette reine-là de Tyr ou de je ne sais où qui a été exilée en Afrique du Nord, alors on lui a donné un royaume pour en compensation de son exil. C'est le roi de Phénicie qui est, je ne sais plus. Bref, on lui a donné un royaume qui était de la taille d'une peau de bête. Et de ce royaume qui était de la taille, je vous expliquais pourquoi je dis ça, bien sûr. Et de ce royaume qui était de la taille d'une peau de bête, elle a fait un grand, grand royaume, Carthage, etc. Et comment a-t-elle fait? Elle a pris sa peau de bête et elle l'a coupée en petites lanières, en mille et mille lanières, et elle l'a étendue comme ça. Eh bien, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est ainsi que je travaille. C'est-à-dire que je ne fais pas une page, et puis le lendemain une autre, puis le lendemain une autre, puis ça fait un livre. J'ai une idée qui me vient, j'ai une image, une idée qui me vient. J'écris d'affilée 4, 5, 6 pages, comme ça, disons des pages d'inspiration. Et ensuite, je coupe là-dedans, et ça fait un livre. Je rajoute une phrase ici, je rajoute un morceau de paragraphe là. C'est comme ça que je travaille. Curieux.
C'est donc Michel Desbordes que nous venons d'entendre au cours d'un entretien avec Alain Weinstein, diffusé dans le cadre de l'émission Du jour au lendemain, le 30 mars 1999, sur France Culture, à l'occasion de la sortie de son roman La Demande, un récit qu'il a fait connaître au grand public et a obtenu plusieurs prix. Mais sans plus attendre, une mise en bouche pour démarrer avec le début du roman La robe bleue. C'était quand elle l'attendait. Sans doute était-ce les jours où elle l'attendait. Quand, ayant reçu la lettre qui annonçait sa venue et prenant l'une des chaises du corridor, elle allait s'installer dehors pour l'attendre. Tirant la chaise sur l'herbe au bas du perron, elle s'asseyait à l'ombre des chênes. Et un peu de soleil passait entre les branches, jouant sur les graviers et le buis des massifs, les fleurs au pied de l'arbre. Il la trouvait là, quand il arrivait, assise sur cette chaise devant le pavillon, immobile et les mains croisées dans le pli des jupes. Ses robes grises ou brunes toujours les mêmes, avec ce chapeau qu'on lui voyait sur les photos, de la même indéfinissable couleur, et que dans les premières années, leur mère, assurant qu'elle en aurait besoin, lui faisait parvenir. Elle était là, immobile et silencieuse, et guettant l'instant qu'il paraîtrait dans le haut du sentier, le petit chemin escarpé par où il monterait, depuis la place plantée d'arbres où l'on garait les voitures, guettant ce moment tandis que déjà elle pensait à ce qu'elle lui dirait, à tout le temps qu'elle ne l'avait pas vu, des mois, des saisons entières, l'été ou le printemps d'avant, et bien davantage encore quand des années passaient sans qu'il fît le voyage. Et alors, sortant de sa poche un carnet, elle le feuilletait et cherchait les pages et les listes, énumérait les unes au-dessous des autres, les dates et les saisons qu'elle avait pris l'habitude de noter année après année, ayant marqué là ce qu'il y avait à marquer de jours, d'événements ou de lettres qu'elle recevait. Même là-bas, à Mondevergue, où il se passait si peu de choses, elle gardait cette habitude, demandant encore de quoi écrire, du papier pour les lettres et un carnet dans lequel parfois on la voyait prendre des notes. Elle avait, disait-elle, besoin de carnet et de marquer ce qu'il y avait à marquer du temps qui passait. Elle marquait le temps qui passait. Elle comptait, disait-elle encore, les années, les saisons et tous ces jours où elle attendait, ne faisait qu'attendre. On la voyait sortir de ses poches ou de petits réticules qu'elle portait au poignet, le carnet qu'elle se mettait à feuilleter, toute droite dans ses robes et ses manteaux gris ou bruns, toujours les mêmes, dans l'ouverture desquels apparaissait un pan de jupe d'une couleur tout aussi imprécise, ou encore cette sorte de robe, cette chasuble d'étoffe rêche et pâle, dont une fois il parlait, et que leur mère, à la fin de la guerre, envoyait là-bas, en même temps que le chapeau de paille, écrivant qu'elle conviendrait à son teint de brune et ferait bien quelques étés. La sorte de robe, de housse, informe et sans couleur, dans laquelle, à présent qu'elle avait maigri, elle semblait disparaître, et qu'entourée de servantes à qui elle demandait une ceinture, une écharpe, pour tenir l'étoffe trop large, elle essayait le matin même devant les glaces du vestibule. Ainsi la trouvait-il quand il arrivait, à l'ombre des chênes où elle s'installait pour le voir franchir les grilles et pénétrer dans la cour, la petite place aux platanes où il prenait l'allée du haut, le chemin de terre et de pierre qui bientôt s'étrécissait jusqu'à devenir l'étroit raidillon sur les arbres, les cèdres, et les tamaris dont on sentait les parfums sur toute la colline. Et s'il faisait beau, il partait sur les allées et marchait dans le parc, parfois même sur les sentiers qu'il y avait après les pavillons. Ils marchaient ensemble, comme autrefois, foulant les broussailles et les petites garrigues, les odeurs très chaudes, et s'arrêtant pour reprendre souffle, il contemplait les Alpes et le Luberon. De là-haut, la vue était incomparable, disait-il. Il s'asseyait à l'ombre des chênes, il respirait le thym, le romarin, et plus bas, quand il redescendait, l'odeur sèche des iris. Sa situation sur l'étagère, eh bien, sur mon étagère, la robe bleue se trouve entre les ouvrages de Philippe Delerme et le petit recueil d'Antoinette Dillasseur, Les maisons, sur ces lieux que nous habitons et qui nous habitent, et ce que leurs habitants y ont laissé comme empreinte. Ce recueil pourrait d'ailleurs trouver écho dans le roman posthume de Michel Desbordes, L'Emprise, où elle évoque des maisons d'enfance, et plus généralement avec son œuvre, où les lieux ont une présence forte, et je pense particulièrement à ces maisons de fous, ces maisons pour faire souffrir, comme le disait Camille Claudel. Mais si on avait demandé à Michel Desbordes de quels auteurs elle aurait souhaité être entourée, on pourrait sans hésiter dire Faulkner, qu'elle a lu et relu, et à qui elle consacrera un roman, Un été de glycine, paru en 2005. Parmi ses auteurs favoris, on pourrait aussi évoquer Claude Simon, Rainer Maria Rilke, Louise Borges, Agota Christophe, Bruno Krebs, Dostoïevski qu'elle lisait adolescente au petit déjeuner avant de partir en cours, Manzi, qui était un ami commun avec son époux Jacques Desbordes, mais aussi Marie Scondé, récemment disparue, qu'elle avait rencontrée en Guadeloupe lors d'une manifestation, Les livres de ma vie, manifestation qu'elle avait créée en 1990 et qui permettait de découvrir le parcours de vie d'une personnalité à travers l'évocation des ouvrages qui l'avaient influencée. Et bien sûr, pour finir, on pourrait citer Georges Perec, qui était un ami très cher de l'autrice. Michèle Desbordes, autrice et bibliothécaire, a eu toute sa vie un lien très fort avec le livre. L'association Les Amis de Michèle Desbordes, qui a analysé toute sa bibliothèque personnelle, dont la majeure partie a été léguée à sa disparition à la bibliothèque d'Orléans, relève que non seulement elle lisait beaucoup, mais qu'elle relisait beaucoup. Plus le livre est lu, aimé, plus il est manipulé et parfois abîmé. Dos cassé, pages cornées, couvertures pliées, déchirées, les annotations sont partout, de la couverture aux pages de garde, puis au corps du texte. Michèle Desbordes aimera reprendre cette belle image. Un livre, c'est quelque chose de plus ajouté au monde. Revenons à Michèle Desbordes. Romancière, poétesse et bibliothécaire, elle a donc toujours vécu pour et par les livres, ceux qui l'entouraient, mais aussi ceux qui l'habitaient. Ses publications sont en effet arrivées tard dans sa vie, mais elle disait « Pendant que je n'écrivais pas, j'écrivais. Ce n'était pas du temps perdu, j'écrivais déjà dans ma tête. » L'écriture comme une lente maturation, donc, jusqu'à la mise en mots sur le papier et le travail d'élagage, de dépouillement qu'elle opérait ensuite au niveau de la langue. Michèle Desbordes est née en 1940 à Saint-Cyr-en-Val, dans le Loiret, et elle passera une grande partie de sa jeunesse à Orléans. C'est là qu'adolescente, elle fréquente assidûment la bibliothèque où elle croise le directeur, un certain Georges Bataille, qui l'impressionne. À l'époque, elle ne sait pas qui il est et elle ne se doute pas non plus qu'un jour elle occupera son poste à la bibliothèque. Si elle noue des liens avec l'écriture relativement jeune, on pourrait presque dire qu'elle se retiendra d'écrire dans sa vie de jeune femme. Elle devient en effet un temps la première lectrice de celui qui sera son époux à partir de 1964, Jacques Desbordes, lui qui lui fera découvrir les auteurs qu'il affectionne et le milieu littéraire qui l'entoure. L'œuvre de Michèle Desbordes se concentre sur une dizaine d'années et commence donc à partir de 1986, alors qu'elle a 46 ans, avec la parution d'un recueil de poèmes sombre dans la ville où elle se taise. C'est cette même année qu'a lieu la rupture du couple, son départ pour la Guadeloupe, où elle occupera pendant 8 ans des fonctions à la bibliothèque départementale. Après la poésie, elle aura envie de passer à la fiction et au romanesque, mais le romanesque pour des vies ordinaires, banales, et ce sera l'habitué. Premier roman paru en 1996 chez Verdier, où la lenteur du temps qui passe est déjà un élément crucial du récit. Il sera suivi en 1999 du roman La Demande, qui reçut plusieurs prix, dont le prix Jean Giono, un récit inspiré par Léonard de Vinci, mais dont la figure principale est sa servante, une paysanne solognotte. C'est le face-à-face entre ces deux êtres, lui, peintre et architecte au soir de sa vie, génie reconnu et revenu de tout, et cette femme qui lui apprend la vie, la mort, et dont il en vit la solidité et la sérénité. Hormis son premier recueil de poésie et un poème narratif autour de Friedrich Hölderlin, 10 récits composent son œuvre, dont L'Emprise, dernière confidence de Michèle Desbordes, publié pendant l'été 2006, alors que sa vie s'est arrêtée en janvier de cette même année. De son œuvre, on retient la présence marquante de la mort, de l'attente et du silence, de l'inaccompli, de l'inassouvi, mais comme elle le dira elle-même, toujours en contrepoint, la présence d'un rachat, quelque chose qui transforme l'inaction en destin, une rédemption, une épiphanie. Ce qu'on retient aussi, C'est sa sensibilité, son style aux phrases longues, une écriture qui sait faire entendre le silence, la lenteur. La robe bleue, parue en 2004, toujours aux éditions Verdier, est donc un récit extrêmement sensible autour de Camille Claudel. La solitude de Camille Claudel pendant son enfermement à Mondevergue, asile psychiatrique où elle passa les 30 dernières années de sa vie. À travers ces 30 longues années où la souffrance et l'attente des courriers et des visites de Paul, le frère aimé, font le rythme des jours, Michel Desbordes retrace aussi le passé de Camille, réminiscence se mêlant au présent douloureux de la femme oubliée. Et l'on revit son enfance, où elle commence déjà à sculpter avec la glaise collectée dans la campagne de petites figurines et très vite le buste de son frère. sa rencontre avec Rodin, alors qu'elle n'a que 19 ans, qu'elle est déjà très douée comme sculptrice, mais à l'époque, l'école des beaux-arts n'est pas ouverte aux femmes. Bien sûr, la passion amoureuse pour Rodin, passion dont elle ne se remet pas, et la bascule vers la haine, l'isolement, la déchéance, la déraison et la destruction de ses œuvres jusqu'à l'arrivée ce matin de 1913 d'une voiture à chevaux et d'hommes en blanc qui la sortent de son atelier pour l'interner sur la demande de sa mère et de son frère. La robe bleue, c'est celle que Michel Desbordes offre à Camille Claudel, comme un apaisement, avec cette journée au bord de la mer, près de celui qui restera pour elle, jusqu'à la fin, le petit Paul, qu'elle a tant et tant attendu. Peut-être, davantage encore que dans ses autres romans, l'écriture de Michel Desbordes est ici le liant de l'histoire. Elle nous entraîne dans les vagues de la solitude, de l'attente, des assauts du passé. Un style où des phrases reviennent entre obstination et obsession et composent l'étrange valse rythmant ces journées d'enfermement. Comment j'ai découvert ce livre? Eh bien, comme bon nombre de personnes, pour moi, c'est le film de Bruno Nuitten en 1988 qui a mis en lumière la vie de Camille Claudel, la grandeur de son art et ses années à l'asile de Mondevergue. Alors, quand La Robe bleue est parue en librairie, je suis allée à la rencontre de cette romancière qui m'était encore inconnue. Sans doute, son éditeur y est pour quelque chose, car après avoir eu une période édition de minuit, je le reconnais, j'ai eu aussi ma période Verdier. Michel Desbordes a suivi la voie qu'avait ouverte pour moi Pierre Michon, et ce ne serait pas lui faire outrage que de dire que les vies minuscules, celles de ceux qui n'ont pas d'histoire, sont aussi au cœur de l'œuvre de Michel Desbordes. Découvrons à présent un deuxième extrait de La Robe bleue, extrait où Michel Desbordes nous parle du moment de renoncement, ce point de basculement qui fera que plus rien ne sera comme avant. Et cela avait duré 15 années, qu'elle avait compté et recompté, et durant lesquelles, lettre après lettre, elle avait demandé que sa mère prît le rapide et vint la voir, la sortie de chez ses fous où elle dépérissait. Et la mère était morte sans jamais prendre le rapide ou quoi que ce fût d'autre pour aller là-bas, ni rien dire que ce qu'elle disait depuis le commencement, à savoir que tout n'était qu'habitude et qu'avec le temps, on se faisait à tout. Oui, un jour elle finirait bien, elle, Camille, par se faire à cela, cette maison, cet éloignement. Et à ce moment-là, elle avait plus de 60 ans, non pas la mère, mais la fille. Elle en avait même bientôt 70 et disait qu'elle ne pouvait oublier, si bien qu'un jour, elle ne demandait plus rien et s'asseyait là sur ses chaises d'où elle ne bougeait plus, vieille, si vieille que lorsqu'il venait, il peinait à la reconnaître. Oui, ce jour inconnu d'elle où malgré les suppliques, les plaintes et les reproches, sans même savoir, elle renonçait. Ce jour qui, d'une invisible ligne, d'une invisible frontière, une dernière fois marquait le temps d'avant et le temps d'après, l'impossible, douloureux partage et le dernier de tous. Le jour venait où elle n'avait plus rien à dire ni demander, où la révolte, la colère n'avait plus même de sens. Ce jour-là venait. Et alors n'était-elle pas là, enfermée et repentante, et soumise comme il désirait qu'elle fût, sans plus rien à faire qu'il eût à réprouver, avec, écrivait-il dans ses livres, cette figure claire et dessinée devant lui comme un plan d'église, bien calculé avec la règle et le compas? Soumise, comme elle ne l'avait jamais été, et marchant sur ses allées, dans ses jardins, ce parc où elle ne rencontrait plus que des malades et des fous, et elle n'en sortait plus. Elle vivait là 15 autres années, les dernières, et cela ferait 30 au total. Les jours de beau temps, errant là-haut parmi les arbres et les garrigues, et pensant à lui qui peut-être n'allait pas tarder à venir, à chaque commencement de printemps, se disant qu'avec la belle saison, elle le verrait peut-être arriver, si bien qu'elle descendait au bureau et demandait s'il n'y avait pas de lettre pour elle, l'associant, lui, Paul, au ciel bleu, à la douceur de l'air, à cette sorte d'accalmie, de trêve qu'on sentait autour de soi, ignorant encore que chaque été, chaque printemps des années qui venaient, elle l'attendrait de la même semblable façon. Il y aurait chaque fois ces jours de ciel bleu où elle commençait d'espérer sa visite. Et parfois il venait, il disait qu'il avait pu venir, et les autres fois, les autres années, elle ne le voyait pas. Il était au Brésil durant que la guerre s'achevait, ou à Washington, Copenhague et Tokyo. Elle ne le voyait plus et comptait les années, les saisons sur les carnets, ainsi que le jour et le mois des visites, et chaque fois, dans ses lettres, leur parlait des maisons de fous, écrivait que ces maisons-là étaient des maisons pour faire souffrir et qu'on n'y pouvait rien, ni elle, ni ceux qui étaient là avec elle, surtout, disait-elle, quand personne, jamais, ne venait les voir. C'est ce qu'elle disait. You know what I want. You know what I need. You can't keep it from me forever. Give me what I want. La résonance avec ce roman sur le sort de Camille Claudel aurait pu être celle du destin de Séraphine Louis, dite Séraphine de Senlis, peintre maudite qui, elle aussi, finira ses jours dans un asile et succombera à la malnutrition qui régnait dans ces institutions oubliées dans les années 40. Mais j'évoquerai plutôt deux créations autour de Camille Claudel que je vous invite à découvrir, si tant est que ce soit possible pour la première, puisqu'il s'agit de la pièce écrite et jouée par Charles Gonzalez, qui fait partie de la trilogie « Charles Gonzalez devient Camille Claudel, Thérèse Davila, Sarah Kane ». La première de cette pièce a eu lieu en septembre 2001 et elle était encore à l'affiche du Théâtre de Poche en juin 2018. Seul sur scène, Charles Gonzalez incarne magnifiquement Camille Claudel à travers les lettres qu'elle écrivait à ses proches, sa mère, son frère Paul, Rodin. Performance emplie d'émotions où il nous donne à entendre tout à la fois l'amoureuse, la petite fille, l'artiste, la malade, la sœur et la femme oubliée.
C'est toi qui m'as
quitté. Mais c'était impossible de vivre avec toi!
Enfin. Écoute, Camille, ce que nous avons fait ensemble, c'était bien. Moi, j'ai toujours ressenti la nécessité pour nous de vivre sur un pied d'égalité.
Mais tout le travail que j'ai fait pour toi était bien! Mademoiselle Claudel, l'élève de Rodin, Mademoiselle Claudel fait du Rodin, Mademoiselle Claudel ramasse les miettes du maître pour les fourrer ensuite dans sa sculpture. Mais c'est ça que tu as laissé faire, c'est ça que tu as laissé dire.
Mon Dieu. Finalement, tu es ma pire ennemie. Je te découvre.
Mais tu m'as tout volé, tout! Ma jeunesse, mon travail, tout!
La deuxième création qui résonne pour moi avec le roman « La robe bleue », vous l'aurez reconnu, c'est bien sûr ce film que j'ai déjà évoqué, Camille Claudel de Bruno Nuiten, avec l'interprétation magistrale d'Isabelle Adjani. La véritable reconnaissance du talent de Camille Claudel viendra surtout à la sortie de ce film, où l'on redécouvre l'œuvre et l'histoire de cette grande sculptrice, jusqu'alors oubliée par les historiens. Même si, en 1952, Paul Claudel avait fait sortir de l'oubli l'œuvre de Camille Claudel en offrant 4 de ses sculptures au musée Rodin. Sculptures qui, en mars 2017, ont intégré le musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine, dans la maison familiale où elle a passé son adolescence. Une citation de l'autrice, Michel Desbordes. Combien de fois me suis-je dit que j'aurais dû vivre comme j'écrivais, à mots couverts, à mots prudents, étouffant la voix, étouffant la violence. Des arbres et des haies. La France compte aujourd'hui 750 000 km de haies, soit 70% de moins depuis 1950. Pourquoi ? Parce que les haies sont encore vues comme des freins à l'exploitation économique des parcelles. Alors, on continue à détruire chaque année 20 000 km de haies. La Ligue de protection des oiseaux en a fait sa thématique pour 2024. Des arbres et des haies, mettant en avant le bénéfice de ces végétaux pour la biodiversité. Outre son caractère d'habitat naturel pour les oiseaux, mais pas seulement eux, la haie permet également de retenir les sols et les eaux, de protéger du vent, un atout majeur en période de sécheresse. Elle participe aussi à la captation du carbone, et ça, nous devrions en parler davantage. Promis, on en reparlera. Citons le dernier ouvrage de Sonia Fertschak, essayiste et journaliste, Éloge de la haie pour un désordre végétal. Pour elle, la haie est comme une tranche de forêt. C'est aussi la crèche et le garde-manger des animaux. D'un point de vue écologique, c'est entre autres un meilleur équilibre de la biodiversité car les haies sont des auxiliaires agricoles. Elles abritent de petits animaux qui se nourrissent d'autres espèces nuisibles pour les cultures. On peut citer aussi l'importance des haies bocagères dans nos paysages et la place qu'elles occupent dans nos passés à la campagne, car la haie a aussi un rôle social. Si elle sépare, isole, c'est aussi un endroit où on se retrouve pour y tailler du bois ou y faire des cueillettes. Mais il est vrai aussi aujourd'hui que la haie représente pour les agriculteurs un symbole de la folie administrative avec les 14 règlements qui la concernent. Alors, espérons que le pacte en faveur de la haie mis en place par le gouvernement à l'automne dernier, apportent concrètement une simplification et remplissent ses objectifs, à savoir stopper la perte de haies et les enrichir de 50 000 km d'ici 2030. En attendant, on peut d'ores et déjà citer l'action de celles et ceux qui œuvrent sur le terrain pour le développement des haies. Ce sont des communautés de communes qui s'engagent dans le sauvetage des haies, des agriculteurs qui montent des filières économiques pour sauver les bocages, des associations comme Bocage et Paysages en Bourgogne-Franche-Comté ou Mission Bocage dans les Mauges et le Choletais. Cette dernière milite depuis 1991 pour la participation des arbres champêtres et des haies au développement durable du territoire. Depuis sa création, Mission Bocage a planté plus d'un million d'arbres en Anjou. Alors, promis, la prochaine fois, nous parlerons à nouveau d'arbres, de haies et d'agroforesterie. À bon entendeur, salut. Merci pour votre écoute et rendez-vous pour le prochain Millefeuille Revisité, toujours sur l'autre radio.